Chapitre 2. Il fait jour quand je me réveille. Près de mon lit, il y a d'un côté Monsieur de Péréorade en robe de chambre, de l'autre, un domestique avec une tasse de chocolat à la main.
Allons, debout le Parisien.
Vous êtes des paresseux à la capitale, dit mon hôte pendant que je m'habille rapidement.
Il est 8 heures et encore au lit. Moi, je me suis levé à 6 heures.
Vous devez absolument voir ma Vénus. Allons, buvez vite cette tasse de chocolat de Barcelone.
Un délice.
Je finis de m'habiller, avale mon chocolat et descends au plus vite au jardin. Et là, je me trouve devant une admirable statue. C'est bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle a le haut du corps nu. Sa main droite est légèrement levée et elle tend son pouce et les deux premiers doigts. Les autres sont repliés. Avec son autre main, elle tient le drap qui couvre la partie inférieure de son corps. Le corps de cette Vénus est parfait. L'ensemble est élégant et noble. En fait, je suis devant un véritable chef-d'œuvre. Sa chevelure est très belle, et sa tête, petite comme celle de presque toutes les statues romaines ou grecques, est légèrement inclinée en avant. En revanche, je suis surpris en découvrant son visage. Il n'a pas la beauté calme et sévère de ce type de statue. Ici, au contraire, j'ai le sentiment que l'artiste a voulu lui donner une expression mauvaise et même méchante. Dédain, ironie, cruauté se lisent sur ce visage pourtant d'une grande beauté. « C'est incroyable, » dis-je à Monsieur de Péréorade. « Il y a sur le visage de cette Vénus quelque chose de féroce, et, malgré cela, il est très beau. » Je continue à observer la Vénus, et je me rends compte que cette horrible expression d'ironie est sans doute augmentée par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillants, avec le vert un peu noir que le temps a donné à toute la statue. Ses yeux brillants produisent une certaine illusion qui rappelle la réalité, la vie. J'avoue que je me sens un peu mal à l'aise devant cette figure de bronze.
Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue, dit mon hôte, parlons scientifiquement. Que pensez-vous de cette inscription, que vous n'avez pas encore regardée?
Il me montre le socle de la statue, et je lis ces mots. Cave Amantem.
Très cher collègue, poursuit-il en se frottant les mains. Je veux savoir si nous sommes d'accord sur le sens de ce Cave Amantem.
Mais dis-je, il y a deux sens. On peut traduire « prends garde à celui qui t'aime », mais en voyant l'expression diabolique de la dame, je pense que le sculpteur a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je pense que cette phrase signifie « prends garde à toi si elle t'aime ».
Dit Monsieur de Péréorade. « Oui, ce que vous dites me semble fort intéressant. Mais, personnellement, je préfère la première traduction. »
Comme j'ai pour principe de ne pas contredire les antiquaires, je réponds à mon hôte que la première traduction est sûrement la bonne.
« Ah, mon Dieu !» s'écrie alors Monsieur de Péréorade. « Encore un acte de vandalisme. On a sûrement jeté une pierre à ma statue. »
Il vient en effet de voir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarque une trace semblable sur les doigts de la main droite, qui, je suppose, a été faite par l'incident d'hier soir. Je décide de raconter l'histoire à mon hôte. La punition donnée par la statue au jeune le fait beaucoup rire. On entend alors la cloche du déjeuner. Nous rentrons, et comme hier soir, le repas est délicieux. Puis, Monsieur de Péréorade part discuter avec ses fermiers, et pendant ce temps, son fils m'emmène voir la calèche qu'il a achetée à Toulouse pour sa fiancée. Il me montre ensuite ses chevaux, en particulier une jument grise qu'il va offrir à sa future femme, et me parle enfin de la jeune fille. « Nous allons la voir aujourd'hui, » dit-il. « Tout le monde ici et à Perpignan la trouve charmante. J'espère qu'elle vous plaira. » Ce qui est bien, c'est qu'elle est très riche. Une de ses tantes lui a laissé tous ses biens. Oh,
Je vais être très heureux. Je suis vraiment choqué de voir un jeune homme plus touché par la dot que par les beaux yeux de sa future femme.
Regardez,
poursuit Monsieur Alphonse, voici l'anneau que je vais lui donner demain. Et il me montre une grosse bague formée de deux mains entrelacées, ce qui me paraît très poétique, couverte de diamants. À l'intérieur de la bague, on lit ces mots en lettres gothiques. Sempre apti, c'est-à-dire toujours avec toi.
C'est une jolie bague, lui dis-je.
Mais il y a peut-être trop de diamants.
Elle coûte très cher.
C'est ma mère qui me l'a donnée. C'était une bague de famille, très ancienne.
À Paris, lui dis-je,
on donne un anneau tout simple, souvent en or, comme cette bague que vous avez au doigt.
Cette petite bague-là, dit-il en regardant son anneau tout uni, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée, il y a 2 ans. Je me suis bien amusé là-bas. Mais Madame Alphonse sera bien contente d'avoir celle que je lui offre. Une bague avec des diamants, c'est toujours agréable à porter, non ?
Ce soir, nous sommes invités à dîner chez les parents de la fiancée de Monsieur Alphonse. On arrive donc au château, où on me présente comme l'ami de la famille. Au cours de ce repas, je fais connaissance avec la future épouse de Monsieur Alphonse. Mademoiselle de Puygarrigue a 18 ans. Elle est délicate et belle. Elle a l'air très bonne, mais aussi un peu malicieuse, ce qui me fait penser à la Vénus de mon hôte. Je constate aussi que Monsieur Alphonse ne lui parle pas beaucoup. En partant, je me dis « Cette charmante jeune femme va épouser un homme qui est intéressé uniquement par son argent. Que c'est triste !» Une fois à Ille, voulant être aimable avec Madame de Peyrehorade, je lui dis « Vous êtes des esprits bien forts dans la région. Vous faites un mariage un vendredi. À Paris, on ne le fait pas, par superstition. »
« Mon Dieu, ne m'en parlez pas !» me répond-elle. « Moi, je ne voulais pas. Mais Peyrehorade a insisté. Alors, j'ai cédé.
Mais pourquoi tout le monde a peur du vendredi ?»«
Vendredi !» s'écrie son mari. « C'est le jour de Vénus. Bonjour pour un mariage.
Vous le voyez, mon cher collègue, je pense uniquement à ma Vénus. C'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. »
Puis, M. Peyrehorade explique le programme de demain.
Tout le monde doit être prêt à 10 heures précises. Ensuite, on va aller en voiture à Puygarrigue. Le mariage civil a lieu à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Ensuite, il y a un déjeuner. Et le soir, on se retrouve à Ille, chez moi, où les deux familles vont dîner ensemble.